Alors pour commencer, j'aimerais lire dans la parole de Dieu Matthieu chapitre 21. Et si vous avez votre Bible, je vous encourage de suivre avec moi. Matthieu chapitre 21. À partir du verset 7, les disciples amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et firent asseoir Jésus dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci ? » La foule répondait « C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. » C'est la fameuse entrée triomphale du Seigneur, entrée prophétisée que celui qui vient à toi viendra sur un ânon, le petit d'une ânesse, parce que l'ânon au Moyen-Orient et en particulier en Israël était le symbole royal. Et Jésus, en montant sur ce petit ânon, qu'il a demandé, d'ailleurs il a demandé aux disciples qu'ils aillent le chercher, se présentait comme le roi d'Israël, le roi des Juifs, le Messie. Et il a été accueilli comme un roi, puisqu'ils ont crié, la foule était là, en jetant les vêtements, c'était un signe d'accueil, de jeter son vêtement pour que l'âne ne s'abîme pas les pieds sur le sol rocailleux. Et ils ont crié « Hosanna ». Qu'est-ce que ça veut dire « Hosanna » ? C'est de l'araméen. Ça veut dire « Sauve ! Sauve-nous !» Et « Alléluia », ça veut dire « Louez le Seigneur hein? ». Voilà. « Alléluia, louez le Seigneur, Hosanna, sauve !» C'est de l'araméen. Et ils ont crié vers le Seigneur Jésus « Sauve-nous !» Ils l'ont reconnu quelque part comme le Messie, le Sauveur, cette foule présente. Et comme vous le savez, comme on l'a rappelé, juste une semaine après, il y avait une autre foule dans le prétoire de Pilate qui, poussée par les souverains sacrificateurs, donc les prêtres du temple de Jérusalem, criait « Crucifie-le ! Relâche Barabbas et crucifie Jésus !» Barabbas étant un meurtrier. Les souverains sacrificateurs, bien sûr, ont poussé cette foule parce que Jésus, là, juste après, entre dans le temple et il fait le ménage. Il chasse les vendeurs. Il y avait un commerce abominable dans ce temple où il fallait acheter les animaux pour les offrandes avec de l'argent du temple. Il fallait changer d'abord son argent, ce qui vous faisait payer un intérêt. Quand vous aviez changé, vous aviez la monnaie du temple, il fallait acheter les brebis ou les pigeons. Et là, c'était bien sûr plus cher que n'importe où ailleurs, puisque c'était pour le temple. Et il y avait donc des bénéfices indus, du profit sur le nom du Seigneur. Et Jésus a fait le ménage, il a chassé les vendeurs, il a renversé les tables, il a dit « Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. » Et les souverains sacrificateurs qui ont dû voir tout ça, on dit maintenant, lui, il faut l'éliminer. Parce qu'il met en péril, non pas notre religion, non pas notre foi, mais notre commerce, profit. Terrible. Comme l'argent peut corrompre jusque la foi, jusqu'à la religion. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que cette gloire de Jésus a été de courte durée. Hosanna, et puis crucifie-le. Et ça m'a posé une question, et j'aimerais vous la poser. Qu'est-ce que nous aurions dit ? Comment aurions-nous réagi face à Jésus ? Est-ce que nous aurions eu la sincérité de dire « Oui, je veux te suivre, je veux te connaître » comme Pierre, les autres apôtres ? Ou est-ce que nous aurions été un religieux lointain, hypocrite, qui dit « Oui, Hosanna, oui, viens !» Et puis, dès qu'il y a des ennuis, on suit le reste de la foule et on dit « Crucifie-le !» Dans l'évangile de Matthieu, toujours au chapitre 13, Jésus avait donné une parabole. Et si vous prenez au verset 37, il explique la parabole du bon grain et de l'ivraie. Vous avez sans doute entendu cette parabole. Verset 37 de Matthieu chapitre 13, Jésus répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, donc le Seigneur Jésus. Le champ, dans cette parabole, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, donc les vrais croyants. L'ivraie, ce sont les fils du malin, les faux croyants. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Dans cette parabole, on voit que dans le royaume du Seigneur, il y a le blé et l'ivraie. L'ivraie ressemblait beaucoup au blé, avec une différence majeure. L'ivraie ne donnait pas de graines pour faire de la farine et du pain. L'ivraie n'apporte rien. C'est bon pour brûler. Mais l'ivraie, quand vous le voyez de loin, vous pourriez croire que c'est un champ de blé. Et Jésus dit que c'est une image, que le diable sème des faux chrétiens. L'ivraie, c'est le faux chrétien. Aujourd'hui, on connaît bien le monde de la contrefaçon. Hein. Tous les faux sacs de marque, là. Les fausses montres, les faux, jusqu'au t-shirt, aux chaussures. Tout est faux. Hein. Et quand vous trouvez quelque chose à un prix imbattable, vous pouvez être sûr, 100%, c'est faux. Eh bien, dans les églises, il y a de la contrefaçon. Des faux chrétiens. Et comme l'ivraie ne donnait pas de fruits, le faux chrétien ne donne pas de fruits. Il est stérile, il ne loue pas le Seigneur, il n'adore pas le Seigneur, il ne témoigne pas, il n'est pas fructueux, sa vie est stérile. Alors, ce matin, je voulais vraiment nous poser la question, est-ce que je suis vraiment un disciple de Jésus-Christ? Un vrai chrétien? Est-ce que Jésus-Christ est mon sauveur? Est-ce que je crie « Hosanna » de tout cœur? Sauve! Fils de David, ou est-ce que j'ai un cœur mélangé et Jésus est pour moi un personnage un peu obscur? Et j'aimerais donc, grâce à cette feuille que vous avez reçue, vous faire une liste de qui est Jésus pour moi. Je n'ai pas l'habitude de dire « je » dans les prédications, mais je vais le dire aujourd'hui. Voilà qui est Jésus pour moi, selon la Bible évidemment. Mais vous pouvez aussi vous associer à moi et dire « oui, il est cela pour moi aussi ». Vous rendez compte que la liste est assez longue et encore, il y a beaucoup plus de noms de Jésus-Christ dans la Bible. Là, c'est une sélection par ordre alphabétique pour vous montrer que Jésus est l'alpha et l'oméga, le A et le Z. Et j'aimerais passer quelques secondes sur chacun. Alors, peut-être ce sera un peu fastidieux pour certains. Si Jésus n'est pas précieux à vos yeux, ça va être fastidieux. Vous allez dire, bon... c'est tout ce qu'il a à dire ce matin, il n'y a pas un truc pour moi. Oui, tout ça c'est pour nous, c'est notre Seigneur. Est-ce que vous l'aimez de tout votre cœur? Est-ce qu'il est tout ça pour vous? Alors commençons avec Ésaïe 9.5, il est admirable. On ne va pas regarder chaque verset hein, dans la Bible, mais c'est cette prophétie, 700 ans avant la naissance de Jésus, où Ésaïe dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Il est un fils admirable, et admirable, c'est un mot très fort là, dans sous la plume d'Ésaïe. Il est merveilleux, il est extraordinaire. Jésus n'est pas un homme comme les autres, Jésus n'est pas quelqu'un comme les autres, c'est pas un fondateur de religion. Il est merveilleux. C'est l'ange de l'Éternel qui s'est révélé aux parents et à Gédéon. Et ils ont dit, quel est ton nom, ange de l'Éternel? Il a dit, je suis merveilleux. Et c'est le même mot. Mon nom est merveilleux. Mon nom est infini, incommensurable. Le Seigneur est admirable, adorable. Mais il est aussi l'agneau de Dieu. C'est Jean-Baptiste qui a dit, hein, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il n'a pas dit, voici l'agneau de Dieu qui nous aide à nous sauver de nos péchés. Non, il a dit, c'est l'agneau qui ôte. Pourquoi? Bien sûr, pour les Juifs, l'agneau, hein, c'est la fête de Pâques, où ils devaient garder cet agneau de lait, cet agneau sans défaut. Il vivait dans la maison plusieurs jours. Et puis, le jour de Pâques, il fallait le sacrifier. Je pense que ça leur faisait quelque chose. Même si c'était des agriculteurs ou des bergers, pour la plupart, ils avaient l'habitude de tuer des bêtes pour se nourrir ou pour les vendre. Mais ce petit agneau-là, ça leur faisait quelque chose parce qu'il était innocent et il allait verser son sang pour leurs péchés, pour mes péchés. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte mes péchés. Est-ce qu'il est l'agneau pour vous? Il est aussi l'alpha et l'oméga, c'est la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Donc on pourrait dire en français, il est le A et le Z. Dans l'Apocalypse, il y a beaucoup de noms de Jésus-Christ. Et si vous relisez l'Apocalypse, vous verrez, c'est magnifique, cette louange, cette adoration vers le Seigneur. Il est le début et la fin de tout. Il est à l'origine de notre vie, il est la fin de notre vie. Il est le commencement de mon salut, il est l'aboutissement de mon salut. C'est pour lui qu'on se réunit le dimanche, c'est pour ça qu'on est dans l'église, c'est pour ça qu'on est sauvé, c'est grâce à lui. Tout est de lui, par lui et pour lui. Il est l'alpha et l'oméga. Est-ce qu'il est l'alpha et l'oméga de ma vie? Je veux dire oui. Seigneur, tu es le commencement de ma vie et la fin de ma vie. Quand je mourrai, quand je rendrai mon dernier soupir, je veux penser au Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur. Il est l'Amen. Amen, c'est de l'araméen aussi. Ça veut dire oui, vraiment. Pour ça, quand on prie, qu'on dit Amen, ça veut dire oui, vraiment, je suis d'accord avec ta prière. Mais Jésus est l'Amen aux promesses de Dieu, dit la Bible. Tout ce que Dieu a promis, tout ce que le Père a promis, est oui et Amen en la personne de Jésus. Jésus, c'est mon Amen. C'est-à-dire, toutes les promesses de Dieu seraient vaines pour moi. Je ne pourrais pas les saisir si Jésus n'avait pas payé pour moi sur cette croix du calvaire. C'est grâce à Jésus-Christ que je peux être exaucé dans mes prières. C'est pour ça que nous prions au nom de Jésus, de Jésus-Christ. Il est celui qui dit oui. Celui qui a dit oui à mon salut aussi. Lorsque je me suis tourné vers le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, pardonne mes péchés. Il a dit, Amen. Et il m'a sauvé selon sa promesse. Il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est une promesse de Dieu et Jésus est l'Amen de cette promesse. Il est notre avocat. Alors, on n'aime pas trop les avocats dans notre monde. Parce que des fois, ils ne sont pas toujours... on ne sait plus où ils sont, dans quel côté ils sont. Mais c'est un métier important, l'avocat. Et un avocat honnête, si ça existe, oui, non, ça existe. Là, c'était une plaisanterie, mais il y a des avocats vraiment sincères et qui font bien leur travail. Il va défendre au mieux même le pire criminel, parce que c'est son rôle. Et il y a parfois des erreurs judiciaires, et heureusement que l'avocat s'est battu pour défendre quelqu'un que tout accusé en bonne apparence. Et nous, on n'est pas une erreur judiciaire. Moi, je ne suis pas une erreur judiciaire. J'ai péché contre Dieu. J'ai offensé Dieu. J'ai blasphémé le nom de Dieu. J'ai désobéi à sa loi, à ses ordres, à ses commandements. J'ai été élevé dans la religion catholique. J'ai entendu donc les commandements de Dieu et j'ai désobéi. Je me suis moqué de Dieu. Je me suis moqué de Christ. Je me suis moqué des chrétiens. Et un jour, j'ai demandé pardon au Seigneur, je me suis tourné vers lui et il est devenu mon avocat. Il est mon défenseur. Maintenant, le diable peut venir m'accuser et dire, Emmanuel, regarde ce que tu as fait. Non, mais ça, c'est passé, c'est fini. J'ai mon avocat. Il plaide pour toujours. On a un avocat qui est là tout le temps, qui plaide pour nous en permanence, qui dit, j'ai payé pour lui. Et chaque fois qu'un chrétien se sent coupable, il doit se tourner vers son avocat. Vers le Seigneur Jésus. Seigneur, si quelqu'un a péché, dit la Bible, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est le bon berger. Ah, ça c'est bon. Vous savez que les bergers au Moyen-Orient marchaient devant le troupeau. C'est-à-dire qu'ils affrontaient les obstacles avant les brebis. Il passait dans les vallées escarpées, sur les chemins, en bord des falaises, dans les trous. Ils affrontaient les bêtes sauvages qui attendaient, les loups, les lions. Il y avait toutes sortes de bêtes sauvages en Israël. Le berger était devant avec son bâton et sa houlette. Avec la houlette, il ramenait les brebis qui s'égarent. mais c'est notre bon berger. On a besoin d'un berger dans notre vie. On n'est pas capable de mener notre vie tout seul. On a beau avoir toute l'intelligence, toutes les études, tout ce que vous voulez, vous avez besoin d'un berger. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous guide dans les moments profonds, difficiles, qui vous guide dans la vie, qui vous guide dans la mort, face à la mort. On a besoin de ce berger qui a passé par la vallée de l'ombre de la mort avant nous. Il est mort et il est ressuscité. Et nous, si nous croyons en lui, moi je crois en lui, je mourrai peut-être si je ne suis pas enlevé et je serai ressuscité. Je le sais parce qu'il est mon bon berger. Il est le cep, le vrai. Toujours l'évangile de Jean. Ça, c'est l'image de la vigne. Il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Qui est le vigneron? C'est le Père. Mon Père est le vigneron. Et c'est le Père qui s'occupe de faire que nous soyons un beau sarment qui porte beaucoup de fruits. Est-ce que ma vie porte beaucoup de fruits? Seigneur, je voudrais porter plus de fruits. Mais il faut que le Père, le vigneron, m'émonde. Parce que plus le sarment est long, moins il porte de fruits. Il faut qu'il soit bien raccourci. Hein. Les vignerons, ils coupent sévèrement. Hein. La vigne, on la coupe sévèrement. Mais elle donne un fruit magnifique. Et parfois, le chrétien a l'air de subir plus d'épreuves que le non-chrétien. Hein. Dans le psaume 73, hein, il y a Asaph qui dit « Mais je ne comprends pas pourquoi les injustes, ils vivent dans la facilité, ils font ce qu'ils veulent, ils vivent dans la débauche, et il ne leur arrive rien, et moi, je m'efforce de m'approcher de toi et je n'ai que des problèmes. » Et il a dit ça jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans les sanctuaires de Dieu, dit le psaume 73. Lorsqu'il s'est approché vraiment de Dieu, il a compris d'abord que le sort des injustes, c'était la perdition éternelle. Personnellement, je ne veux pas aller là. Même si je dois avoir une vie agréable ou peu importe sur la terre, je ne veux pas aller en enfer. Mais il a compris aussi que l'enfant de Dieu est toujours sous la garde du Seigneur. Que le Seigneur ne nous quitte pas, même dans l'épreuve, et surtout dans l'épreuve, il est là, à nos côtés, pour nous émonder, lui le vigneron. Jésus est le cep, c'est de lui que je tire ma sève, ma vie, ma force spirituelle. Tous les matins, j'ai besoin du Seigneur pour être un sarment qui porte du fruit. Il est le chef de la foi, dit l'Épître aux Hébreux. L'auteur, le prince de notre foi, celui qui suscite la foi, celui qui est le modèle de la foi. Notre foi est basée sur Christ. Si je suis vraiment chrétien, ça veut dire que je crois en Christ. Chrétien, c'est Christ. Est-ce que j'ai vraiment la foi? Parfois, on confond la foi et une vague croyance. Ce n'est pas que je crois vaguement, c'est que je suis certain. Christ est mon Sauveur, mon Seigneur, mon Dieu. Il est le chemin. Il n'y a pas 50 chemins. Et c'est là que l'humanisme s'illusionne en disant tous les chemins mènent à Rome, hein, ou tous les chemins mènent à Dieu, c'est-à-dire peu importe quelle religion tu as, même si tu es athée, au fond, tout ira bien, nous irons tous au paradis. Mais la parole de Dieu ne dit pas ça, elle dit il y a un seul chemin. Alors, bien sûr, c'est considéré comme étant intolérant et horrible, et comment pouvez-vous laisser tous les autres? Mais l'évangile est répandu dans le monde entier. Le nom de Christ est connu dans le monde entier. Il y a des Bibles dans toutes les langues possibles et imaginables. C'est le livre le plus vu, le plus lu, le plus traduit, le plus imprimé de toute la terre. Tout le monde a accès à Jésus-Christ à travers la Bible, à travers l'évangile. Mais surtout, il est le chemin. Pourquoi? Parce qu'il est l'agneau de Dieu. Sans Jésus-Christ, on ne peut pas être sauvé. Parce qu'on est dans nos péchés. Dieu ne peut pas pardonner les péchés comme ça. Pfft, non. Il est juste et saint. Il doit juger le mal. Absolument. Donc Dieu ne pourra pas, le jour où on meurt, dire « Bon, alors, toi, tu as fait beaucoup de péchés, mais écoute, allez, tu as l'air sympathique, tu as une tête qui me revient bien, je te laisse entrer. » Ça ne se passera pas comme ça, le jugement éternel. Il y aura le trône du Seigneur et nous serons... Non, les hommes seront là devant lui, hein. Et il dit que des livres seront ouverts, c'est-à-dire le livre de la vie de chacun. Et tous les péchés seront là. On ne pourra pas dire, « Ah non, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas dit ça. » Ben oui, mais c'est écrit, mon ami. Mais j'ai oublié. Ben oui, toi tu as oublié, mais moi je n'ai pas oublié, c'est dans le livre. Dieu a tout consigné dans sa mémoire éternelle. tous les péchés, toutes les offenses, tout est consigné et devra recevoir une juste rétribution, à moins que nous ayons Christ pour sauveur. Parce que lui, il a pris tous nos péchés sur lui, à notre place. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui a saisi ça, que Jésus le sauve, que Jésus a pris pour lui tous ses péchés, que le jour où je comparaîtrai devant Dieu, Dieu ne va pas me juger, me ouvrir les livres. Dieu va dire, est-ce que ton nom est dans le livre de vie de l'agneau? Mais oui, parce que j'ai cru en l'agneau, Jésus-Christ. Alors on va regarder, oui, ton nom est écrit là, il y aura Stéphane, il y aura Emmanuel, il y aura peut-être votre nom, j'espère. Vous vous rendez compte d'être sur cette liste, c'est la liste de Schindler, hein, un petit peu. Hein. C'est là que tu seras sauvé avec cette liste, hein. Le livre de vie de l'agneau. C'est merveilleux d'être dans cette liste. Comment être dans cette liste? Est-ce qu'il faut être un élu? Non, il faut s'être tourné vers le Seigneur et avoir cru en lui. Il est le commencement. Dans Colossiens, c'est un verset qui a suscité pas mal de controverses parce qu'il est traduit dans la Louis II que Jésus est le premier-né de la création. Colossiens 1, 18. Et alors les gens disent, mais alors ça veut dire qu'il est la première créature. Jésus n'est pas, Christ, le Fils de Dieu n'est pas une créature. Il est le créateur même. Mais alors pourquoi c'est écrit, il est le premier-né? Le premier-né, ça veut dire l'aîné. Et le mot utilisé là, c'est le principe, le commencement, le chef de la création. Il est l'aîné de la création. Pas dans le sens qu'il est né en premier, mais dans le sens qu'il est le chef. C'est lui le créateur. Et dans Colossiens, il dit d'ailleurs, tout a été créé par lui et pour lui. Il n'y a pas de confusion après hein, à avoir, mais ce sont souvent les témoins de Jéhovah ou les musulmans qui introduisent cette confusion pour enlever de Jésus sa divinité. Il est le créateur, il est le commencement de toute chose. Quand Dieu a créé, c'est la parole qui a créé. Et la parole, c'est Christ. Il est le Dieu puissant, il est le conseiller et le Dieu puissant, Ésaïe 9, 6. Il est mon conseiller, j'ai besoin d'un conseiller. Vous avez un conseiller à la banque ou à la poste? Vous avez un conseiller fiscal? Mais on a un conseiller qui est tellement meilleur, le Seigneur Jésus. Il nous conseille dans tous les détails de notre vie, il nous aide, il nous montre la voie. Il est vraiment le conseiller dans le sens celui qui vous aide, qui s'occupe de vous, qui vous montre le chemin. Il n'est pas un conseiller qui pointe du doigt et qui vous juge, il est le conseiller qui vous accompagne. Il est le Dieu puissant, toujours le même verset, Dieu puissant, Père éternel. On ne peut pas dire autre chose, Jésus-Christ est Dieu puissant. Rien n'est au-dessus de lui, rien ne lui résiste. Il n'y a pas plus haut, plus puissant que Dieu et que Christ. Il est le Dieu véritable. Ça, c'est quelque chose aussi de fort. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. Là encore, les témoins de Jéhovah ont changé la traduction qui les dérangeait trop. C'est Christ le Dieu véritable. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Mais on dit, parfois on est un peu troublé, on dit, oui, mais moi j'adore Dieu, alors... Mais Christ, c'est Dieu. Quand tu adores Christ, tu adores Dieu. Oui, mais est-ce qu'on doit adorer le Père, le Fils et le Saint-Esprit? On adore Dieu. Et Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est une trinité. C'est clair dans l'Écriture, en tout cas. Il est aussi notre époux. J'aime cette expression, même pour les hommes, n'est-ce pas? En tant que frère et sœur, en tant qu'Église, nous sommes l'épouse de Christ. Il est notre époux. L'époux, c'est celui qu'on attend, celui qu'on aime, celui qui va prendre soin de nous, celui qui va venir nous chercher hein, pour nous enlever. Nous ne serons pas enlevés individuellement, nous serons enlevés collectivement à la résurrection. L'Église, non pas l'Église baptiste ou l'Église, peu importe, ce sera les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit, seront collectivement enlevés à la rencontre du Seigneur, notre époux. Et nous serons pour toujours. Il y aura les noces de l'agneau dans le ciel. Hein? Apocalypse qui parle de ces noces, cette fête extraordinaire, notre réunion avec le Seigneur. Le Seigneur est là avec nous, mais il est au ciel, il est là en esprit, mais nous le verrons face à face. Nous serons réunis pour toujours. Des fois, on envie les apôtres. Hein. Ah, moi, j'aurais aimé passer les 3 ans et demi avec le Seigneur aussi. Te rends compte, tous les jours avec lui, le voir, l'entendre, l'écouter. Mais je ne sais pas si on aurait apprécié, finalement. Si on aurait eu le cœur pour l'apprécier maintenant, c'est sûr que je l'apprécierais. Mais de le voir au ciel, l'agneau de Dieu. Il est aussi l'étoile du matin. C'est la première étoile qui annonce le soleil. On la voit même avant le soleil. Jésus est celui qui annonce la lumière de Dieu. Quand on est dans les ténèbres du mal, hein, les ténèbres de nos péchés, de nos vices, de tout ce qui est sombre en nous, dans notre âme et dans notre vie, il y a l'étoile du matin, c'est Christ qui se lève, qui annonce le salut. On verra qu'il est le soleil aussi. Il est le fils de David. Bien sûr, il est descendant du roi David, c'était annoncé. Et Jésus, si vous lisez ses généalogies dans Matthieu et dans Luc, il est descendant du roi David, il est bien le Messie. Le Messie était appelé fils de David. Jésus est le vrai Messie, le seul Messie. Il est fils de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu a eu un enfant avec Marie, mais ça veut dire qu'il vient de Dieu. Il est l'image de Dieu, il est la manifestation visible de Dieu, fils de Dieu, descendant qui vient du Père, il dit « je viens du Père ». Mais il est aussi fils de l'homme, et c'est ça qui est dur pour nous les humains. Jésus est parfaitement Dieu, totalement Dieu, mais aussi totalement homme. Et c'est là où on dit, mais comment on arrive à... Ça ne se mélange pas, c'est comme l'huile et le vinaigre. L'huile et l'eau, excusez-moi. Mais il n'y a pas, c'est pas une question de se mélanger, c'est que Jésus est les deux. En tant qu'homme, parfois, il ne manifestait pas sa divinité quand il s'est laissé faire, quand il a pleuré. Mais en tant que Dieu, parfois, il s'est manifesté en faisant des miracles que seul Dieu peut faire et en disant au paralytique, je pardonne tes péchés. Il est le fils de Dieu et le fils de l'homme en même temps. Il est l'homme de douleur, Ésaïe 53. Le Seigneur a souffert pour nous, pas parce qu'il a eu une vie difficile. C'est pas tellement ça, ses souffrances. Ses souffrances, c'était à cause de nous, à cause du mal que le diable nous inflige, que le péché nous inflige. Sa souffrance, c'était de voir la créature, sa créature, être esclave, s'entretuer, être possédée par des démons, être touchée par les maladies. C'est ça qui a fait souffrir le Seigneur. Il est aussi « je suis ». Je suis. Plusieurs fois, Jésus a dit « je suis ». Ça, pour un juif, c'était clair. C'est le tétragramme, c'est le nom de l'Éternel, hein. Je suis celui qui est, dans l'Ancien Testament. Quel est ton nom, a dit Moïse à l'Éternel. Je suis celui qui est. Et quand Jésus a dit, vous ne croyez pas ce que je suis, en fait, dans le grec, il dit, vous ne croyez pas que je suis. Et ailleurs, il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et quand on est venu le chercher, on a dit, es-tu Jésus de Nazareth? Il a dit, je suis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le soldat est tombé par terre. Jésus est Yahvé, l'Éternel. Et si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, vous êtes encore dans vos péchés. Jésus a dit, si vous ne croyez pas que je suis, vous êtes dans vos péchés. Il est aussi le juste juge. Le Seigneur sera appelé à la fin du monde à juger le monde. Mais il le fera avec une absolue justice. Parce qu'il est omniscient, il est sage. Il est aussi, bien sûr, Jésus, parce que avant de naître de Marie, le Fils de Dieu existait de toute éternité. Il s'est manifesté dans l'Ancien Testament sous la forme de l'ange de l'Éternel. Et il s'est appelé Yeshua, ce qui veut dire en hébreu Yahvé sauve, Yahvé sauveur. Il est le lion de Juda. Là, c'est encore une prophétie que le Messie devrait naître de la tribu de Juda, du roi David, de la lignée de Juda et de David. Et Jésus est le lion, parce qu'il y a un passage qui dit que Juda est comme un lion. Et j'aime bien ces représentations dans l'Apocalypse où Jésus, le Seigneur, est à la fois le lion et l'agneau en même temps. C'est contradictoire. Un lion, normalement, n'est pas un agneau et un agneau n'est pas un lion. Mais Jésus, il est deux en même temps. Il est le lion messianique, le roi des animaux. Hein. Il va être le roi de tous les rois. Mais il est aussi l'agneau, celui qui est mort pour nous, qui s'est abaissé, qui était une victime innocente à notre place. Il est la lumière du monde, celui qui éclaire nos vies. Si quelqu'un cherche la lumière dans sa vie, n'allez pas chercher midi à 14 heures. Le Seigneur Jésus est la lumière du monde. Il est l'unique médiateur. Il n'y a pas d'autre médiateur, dit la Bible, que Jésus-Christ, homme, qui est mort en rançon pour nous. La Vierge Marie n'est pas notre médiateur. Les apôtres ne sont pas nos médiateurs. Les saints ne sont pas nos médiateurs. Il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ. Il est le Messie, ça veut dire « oint », qui a reçu l'onction de Dieu. Il est celui qui est choisi par le Père pour sauver Israël et sauver le monde. Jésus correspond exactement aux prophéties messianiques. Il les a accomplies l'une après l'autre. Il est le pain de vie, celui qui nourrit notre âme. Et combien nous avons besoin de nourriture spirituelle dans ce monde. Ce monde nous propose de la nourriture physique, matérielle. Il nous propose de l'amusement, de la détente, du plaisir, du loisir. Mais l'âme, qui va la nourrir? Il n'y a qu'une seule chose qui peut nourrir une âme, c'est le pain de vie, c'est Christ. Quand on le connaît, quand on s'approche de lui, on découvre qu'il comble notre âme et que le reste a beaucoup moins d'importance d'un seul coup. Il est la parole de vie, celui qui a créé le monde, celui qui donne la vie aux morts, et c'est lui qui nous ressuscitera, c'est lui qui nous ressuscite même spirituellement. J'étais mort dans mes péchés, j'étais séparé de Dieu, j'étais inutile. J'étais coupé de la vie éternelle et quand j'ai cru en Christ, sa parole de vie m'a ressuscité. Il est la pierre angulaire principale. C'est une allusion à cette histoire lorsque le temple de Salomon a été construit. Toutes les pierres ont été taillées à l'avance et les ouvriers ont commencé à les placer l'une après l'autre. Et il y avait une pierre qui avait une forme bizarre. Ils ont dit « celle-là, c'est une erreur ». On la jette pour ne pas s'embêter avec, ils l'ont jeté dans un fossé et ils ont continué jusqu'à ce qu'il y ait une pierre d'angle, l'angle principal du temple, et il manquait une pierre. Ils sont allés voir les tailleurs, ils ont dit « il manque une pierre ». Ils ont dit « non, on a tout taillé ». Et quelqu'un s'est dit « hé, c'est peut-être la pierre qu'on a jetée ». Ils sont allés la chercher et c'est exactement cette pierre d'angle qui se met à l'angle du mur principal. On ne sait pas si c'est une légende juive, on ne sait pas dans la Bible, mais en tout cas, les apôtres et Jésus font allusion à ça. Il dit « Je suis la pierre d'angle que vous avez rejetée, mais qui est devenue la principale. » Moi, j'ai rejeté Christ dans ma vie, jusqu'au jour où j'ai compris qu'il était vraiment le bon berger, celui qui pouvait sauver ma vie, et il est devenu la principale pierre de ma vie. Il est la porte du salut. Entrez par Jésus-Christ. En ce moment, l'Église de Rome fait un appel, un jubilé, où si vous entrez par la porte de l'Église Saint-Paul, je crois que c'est Saint-Paul de Rome, vous pouvez avoir une indulgence pour votre purgatoire. Et donc, les gens vont venir en pèlerinage par milliers, par centaines de milliers à Rome pour entrer par cette porte qui est fermée le reste du temps. Et ils pensent que cette entrée par cette porte à Rome leur accorde des indulgences. Mais il y a une porte qui est là tout le temps, qui n'est pas une porte physique. C'était une image, évidemment, quand Jésus a dit ça. Il dit « Je suis la porte du salut. Celui qui entre par moi sera sauvé. » C'est une porte étroite, c'est vrai. Mais c'est la seule porte par laquelle vous pouvez être sauvé. Est-ce que vous avez cherché le salut, le pardon un peu partout? Il est temps maintenant de regarder à Christ, l'agneau qui est mort pour vous, la porte. Il est le prince de la vie. Celui qui nous donne la vie, qui nous ressuscite. Il est le prince de la paix, celui qui apporte la vraie paix, la paix avec Dieu, la paix de l'âme, la paix que rien ne peut troubler. Il est le prince de notre salut. Il est celui qui a acquis chèrement notre salut, nous lui devons tout. Il est la résurrection et la vie. On en parlera dimanche prochain. Il est le roi des rois. le Seigneur des Seigneurs. J'aime cette expression. Il y a des rois, il y a des présidents, il y a des gens puissants sur la terre. Mais comparés à Christ, ils ne sont rien. Il est le roi des rois. Bien sûr, eux, ils peuvent, avec leur pouvoir, leur armée, leur argent, se prendre pour des dieux. Mais lorsqu'ils devront rendre compte, ils ne seront plus des dieux. Ils seront tout nus face au juge, face au roi des rois. C'est Fouquet qui a construit Vaux-le-Vicomte. Et Fouquet était le comptable de la France, le ministre des Finances, et il détournait de l'argent à son profit, comme on faisait beaucoup à l'époque, au temps de Louis XIV. Et avec cet argent, il s'est construit le plus beau château du royaume, Vaux-le-Vicomte. Il a fait la fête la plus belle qui soit au monde, avec les feux d'artifice, qui étaient encore exceptionnels à l'époque, tout nouveau, les jardins extraordinaires. Et quand Louis XIV, le roi, a vu ça, il a dit, mais attends, il me pique ma gloire, c'est pas possible. Il a un château d'une fête plus belle que moi. Et c'est comme ça qu'il a construit plus tard Versailles, à cause de Fouquet. Mais ce qu'il a fait, c'est que quelqu'un a dénoncé Fouquet, bien sûr, pour prendre sa place, et Fouquet a été mis en prison. Il avait beaucoup d'appui, beaucoup d'aide et de gens haut placés. Il s'est dit, je vais passer quelques jours en prison et puis on va vite me libérer, je vais m'en sortir. Sauf que Louis XIV a décidé de faire un exemple. Il a dit, tu as voulu me piquer ma gloire. Tu vas mourir en prison. Et après des semaines, des mois dans un cachot humide et horrible, Fouquet a commencé à demander du papier et à écrire. Et il a écrit des poèmes, il a écrit un journal de sa vie horrible en prison. Et il a dit à un moment, je préfère faire la cour au roi des rois, être dans la cour du roi des rois que dans la cour du roi terrestre. Il voulait parler de Louis XIV. Et je pense qu'il a eu une expérience avec Dieu dans sa prison. Dans son château, il n'a pas eu d'expérience avec Dieu. Mais dans son cachot, il a rencontré le Seigneur. Et il a vu la valeur des choses. Que l'argent, le luxe, c'est pas ça. C'est d'être dans la cour du roi des rois. Il est le saint. Jésus était absolument sans péché. Dieu est sans péché, Dieu est saint. Il n'y a aucune ténèbre en lui, il n'y a aucun compromis même avec le péché. Il est le sauveur, bien sûr, Yeshua, Dieu sauve. Il vous naîtra un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs, on en a déjà parlé. Il est le soleil de justice qui se lèvera. Là encore, la lumière du soleil qui vient apporter la vie, la chaleur. Si vous êtes dans une nuit froide, vous êtes content de voir le soleil se lever. Quand je faisais la garde pendant mon service militaire en Allemagne, en hiver, qui faisait très très froid, c'était glacial, on était frigorifiés, on n'arrivait même pas à dormir tellement on avait froid. Et on était là, et le soleil se lève. Autant j'avais déprimé toute la nuit, autant quand le soleil a commencé, j'ai vu les premières lueurs, j'ai dit ça y est, c'est fini, on va s'en sortir. J'ai tenu le coup. C'est pareil dans la vie, il y a des gens qui ont souffert beaucoup à cause du mal, du péché. Et puis quand Christ arrive dans leur vie, la lumière se lève. Ils peuvent dire, oui Seigneur, tu es mon soleil de justice. Il est le souverain berger. Ça c'est pour les pasteurs. Les pasteurs qui doivent s'occuper des églises, ils ont un souverain berger. Il y a le patron qui nous donne ses indications. Et on n'est pas comme ça, je fais ce qui me plaît. Tout ce que j'ai et tout ce que je fais, je dois le faire par le Père et par le Seigneur, le souverain berger. Il y aura un jugement aussi pour les bergers humains. Il est le souverain sacrificateur, ça les Juifs le comprenaient, celui qui entrait une fois par an dans le lieu très saint pour apporter le pardon des péchés. Christ est notre souverain sacrificateur, il est entré avec son propre sang dans le ciel même, dans la présence de Dieu, et il a accompli notre salut. Totalement. Maintenant, nous ne pouvons plus être condamnés. Je ne peux plus être condamné parce que Christ est entré dans le ciel avec son propre sang en disant « J'ai payé pour Emmanuel Bozzi. J'ai payé pour Stéphane. J'ai payé pour votre prénom si Jésus est votre sauveur. » Il est le témoin fidèle. Jésus a toujours rendu témoignage à la vérité. D'ailleurs, on va voir, il est la vérité. Il est la tête de l'Église. Le chef, ce n'est pas le pasteur. Le chef de l'Église, ce n'est pas le pape. La tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. Il est notre chef, il est vivant. C'est lui qui, par son esprit, donne des dons spirituels et nous utilise tous ensemble. Il est la vérité et la vie, dit l'évangile de Jean. Le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Est-ce que Jésus-Christ est cela pour vous? Et bien plus encore. Ou est-ce que tous ces mots sonnent creux dans votre âme? Pour vous, c'est des belles choses, mais ce n'est pas personnel. Si Jésus n'est pas votre agneau de Dieu, votre sacrificateur, votre sauveur, votre Seigneur, j'aimerais vous laisser l'occasion maintenant, dans la prière, d'ouvrir votre cœur, de le recevoir, de l'accueillir en disant « Hosanna, sauve-moi, Seigneur ». Inclinons-nous, si vous voulez bien, dans la prière. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui dit « Hosanna, sauve-moi parce que je suis perdu. Sauve-moi parce que je t'ai offensé. Sauve-moi parce que si je meurs maintenant, je vais en enfer. Sauve-moi, Seigneur, parce que le péché m'a tellement rendu esclave que je n'arrive plus à m'en sortir. Sauve-moi, Seigneur, parce que je n'ai même plus la force de chercher le bien. Sauve-moi, Seigneur, tu es mon seul espoir. Je crois que tu es mort pour moi, que tu es ressuscité victorieusement, que tu es la vie et la résurrection. Je crois, Seigneur, que tu es mon Seigneur. Je veux t'obéir, que tu règnes dans mon cœur et dans ma vie, que tu changes, que tu enlèves le mal et la rébellion et l'orgueil, que tu le remplaces par le bien, par l'obéissance et l'humilité. Seigneur, sauve-moi. Deviens mon sauveur, mon Seigneur, mon bon berger. Deviens le cep de ma vie. Et si vous avez fait une prière comme cela, vous pouvez penser à dire « Merci Seigneur, je le crois de tout cœur. » Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et pour ceux qui sont déjà sauvés, déjà chrétiens, déjà enfants de Dieu, est-ce que Jésus-Christ est toujours mon Seigneur? Est-ce que je le suivrai comme les disciples l'ont suivi? Ou est-ce que je le suis quand ça m'arrange et je ne le suis plus quand ça me dérange? Est-ce que j'obéis vraiment au Seigneur Jésus? Est-ce que on peut m'appeler vraiment un disciple de Christ? Ou alors je suis juste un membre d'une église? Ou un vague chrétien non pratiquant? Ô Seigneur, nous ne voulons pas utiliser ce nom en vain. Seigneur, pour nous, ça veut dire que tu règnes dans notre cœur, dans notre vie, que tu es le premier. Seigneur, ça veut dire que nous voulons t'obéir et te suivre. Même si ça nous fait peur parfois, là où tu nous demandes d'aller, nous savons que tu ne demanderas rien de mauvais, jamais, parce que tu es saint et tu es juste et tu es aimant. Loué sois-tu, Seigneur, pour ta personne admirable. Amen. Je demandais à